I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute par plastique.
Cette émission est préparée par Aïssatou Ndoye, Boris Pino, Sarah Dion, Clémence Marie et Sophie-Catherine Gallet. La prise de son est assurée ce soir par Jean-Guilain Meige et à la réalisation, c'est toujours Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, pour une dispute consacrée aux arts plastiques, Yasmine Youssi, Boris Atrux et Florian Guettet. Et cette première émission de l'année sera une totale photographie avec à notre programme trois expositions. JR Momentum, la mécanique de l'épreuve, une rétrospective donc de l'œuvre de JR qui occupe la Maison Européenne de la Photographie. Photographie à Paris, photographie arme de classe, ça c'est au Centre Pompidou, Léna Dard, une légende photographique à la Bibliothèque Nationale de France, et le coup de cœur de Florian Guettet ira à l'exposition de Stéphanie Solinas, Haunted, Lost and Wanted, à la galerie Gradiva. Enfin, il y a toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute, et ce soir ce sont des invitations pour Never Ending Man, Hayao Miyazaki, un documentaire de Kaku Arakawa, aujourd'hui au cinéma. Et nous ouvrons cette dispute avec la grande rétrospective que la Maison Européenne de la Photographie consacre à JR, JR des initiales, pour un artiste qui se définit comme un activiste urbain. On connaît surtout de lui d'immenses portraits tirés à partir de négatifs, collés dans les villes. Au début des années 2000, ces installations sont illégales. C'est le cas par exemple de grands portraits d'enfants de Clichy-Montfermeil collés sur les murs de la Cité des Bosquets qui le rendront célèbre. Mais depuis bien des années, il a largement intégré le grand jeu de l'art contemporain officiel et rémunérateur. Il vend et expose dans le monde entier. Il y a 12 ans, la MEP offrait à l'artiste de rue quelques murs extérieurs pour exposer. Cette fois-ci, il a toute la maison et bénéficie d'un commissariat doublement institutionnel, celui de Jean-Luc Monterosso, qui signe là son dernier projet à la MEP avant son départ, et Dominique Bertinotti, maire du 4e arrondissement.
My name is JR, and I guess I'm an artist that do wallpaper.
I'm having a bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Huh, despicable me. I'm having a bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me.
Et c'est Yasmine Youssi qui nous conduit à travers la Maison Européenne de la Photographie pour cette exposition JR.
Dont je suis sortie assez frustrée en fait.
Vous avez passé un bad day comme dans la chanson?
Je dirais pas un bad day, mais je suis restée sur ma faim. En fait, la première fois que j'ai vu JR, c'était à Arles il y a quelques années, je crois que c'était en 2011. Si ma mémoire est bonne, François Hébel l'avait invité pour une soirée au Théâtre Antique. Et j'avais été complètement bluffée en fait par sa performance, parce que c'est vraiment de performance qu'il s'agit. C'était une nuit comme ça, il s'était raconté d'où il venait, ce qu'il avait fait, son travail avec images à l'appui, films à l'appui, et il y avait quelque chose d'assez envoûtant, c'est-à-dire qu'on était complètement pris par son histoire, et cette interaction entre son récit et les images fonctionnait vraiment très très bien. Il était là comme à son habitude, avec ses lunettes noires, son chapeau vissé sur la tête, voilà, il y avait cette tchatch, et puis on percevait vraiment la force de son travail, la profondeur aussi de son travail, que je n'ai pas ressenti là. Parce que de toutes les façons, cette exposition, elle pose l'éternelle question de comment on fait pour montrer la performance dans un musée. Et comment on arrive à rendre l'essence même d'une performance quand l'artiste n'est pas là, quoi. Alors... C'est une question pour moi qui n'a jamais été résolue, sauf peut-être par Marina Abramović quand elle avait été au MoMA, je pense que c'était la même année ou en 2010 ou 2011, je sais plus, où là elle était venue elle-même et en fait elle s'était installée au MoMA Et elle avait fait ses performances en prenant les gens, en les regardant. Il y avait quelque chose de très très fort qui s'était passé. Il y avait une queue, on n'avait jamais vu ça. Mais vraiment jamais vu ça. Peut-être c'est pour moi le seul moment où peut-être on est arrivé à montrer ce que c'était la performance. Et là, on n'y arrive pas.
Alors vous nous avez dit ce qu'on ne voit pas. Vous allez peut-être, Boris, nous dire un peu ce qu'on voit, Boris Atrux.
Alors, ce qu'on voit surtout, c'est... on va dire, j'espère que le mot n'est pas trop fort, mais c'est, on va dire, le fonds de commerce de JR.
Non, le mot est bon.
qui n'est pas un artiste connu pour les œuvres qu'il produit pour les galeries et les musées. C'est surtout un artiste qui est connu pour sa pratique principale, qui est de transformer des photos, des négatifs de photos, en collages monumentaux qu'il affiche, ensuite qu'il colle à l'échelle d'une ville, d'un quartier ou... et c'est un relatif archaïsme technique, comme ça, c'est vraiment la photo pure. Mais ensuite, toujours avec une forme de gigantisme. Et là, ce qu'on a, c'est donc la difficulté d'un centre d'art, d'un musée, de transcrire cette œuvre dans des murs qui sont assez étroits. Donc ça se fait par différentes techniques, j'irais expérimente depuis un certain nombre d'années, puisque il a une carrière qui n'est pas extrêmement longue, puisqu'il a commencé au début des années 2000. Donc il y a par exemple des anamorphoses qui sont proposées. Donc quand on est sur le seuil d'une pièce, on voit une photo comme ça qui bouge quand on parcourt l'espace. Il y a aussi des éditions limitées qu'il fait avec ses galeries qui proposent comme ça sous cadre, sous verre, des photographies qui sont découpées et qui sont mises en différents plans. Donc on a par exemple un certain nombre de photographies comme ça qui sont issues de ces séries comme Women Are Heroes ou Unframed. Donc on a comme ça, et puis aussi je trouve que moi ce qui m'a le plus déçu, c'est les œuvres qu'il a spécialement conçues pour l'exposition. Donc, et qui sont, je trouve, extrêmement gadget. Et un peu anecdotique comme ça, donc il y a un petit train dans une structure en bois. Il y a plusieurs œuvres comme ça que je trouve extrêmement décevantes d'un point de vue visuel.
On y reviendra. Florian Guettet, un premier regard sur cette exposition.
Oh ben, j'en veux dire encore heureux qu'il y ait des gadgets, parce que ça nous amuse au moins pour marquer ou cacher les faiblesses conceptuelles du projet. Moi, effectivement, ça pose la question de comment montrer tout l'aspect performatif dans l'institution. Ça pose aussi la question de l'art urbain dans les institutions, c'est-à-dire de ce parcours tout à fait légitime, d'un banlieusard qui maintenant expose chez Perrotin. Mais dans ce passage-là.
Juste une parenthèse, et aussi une sorte de mythe, comme je comprends, son passé, enfin, le côté banlieusard qui expose chez Perrotin est même pas vraiment avéré. C'est vraiment une construction.
Oui, tout à fait. Oui. Mais bon, après tout, Beuys a beaucoup construit son mythe aussi. Moi, ça ne me dérange pas en soi. On nous donne ça à manger, on le mange. Mais dans ce passage-là de l'art clandestin et vandale de l'art urbain à quelque chose de beaucoup plus exposé, beaucoup plus institutionnel, eh bien, il faut forcément ajuster un petit peu ces techniques. Et là, il y a une forme d'indécision. On voit qu'il a pas bu bien. Il est entre deux positions, donc presque une imposture, finalement, au sens presque littéral du terme. En fait, moi, ce qui me pose question, c'est qu'on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. C'est-à-dire que tout l'art urbain pose sur cette question de comment on laisse des traces derrière nous qui sont vouées finalement à disparaître et qu'on s'efface finalement derrière son projet. Là, évidemment, JR ne s'efface pas, même s'il n'est pas là au vernissage, finalement, on parle encore plus de lui parce qu'il n'est pas là. Mais surtout, en fait, il y a tout un ensemble de projets qui devrait être dans le registre du fugitif et de l'éphémère. Par exemple, les expos de rue, qui sont donc ces premières photos qui sont montrées. Donc, en fait, ce sont des photos de taggers dans les égouts, sur les toits, etc., parisiens. Et il les expose de façon sauvage dans des expositions qui sont éphémères. Mais en fait, il prend en photo ces expositions. C'est-à-dire qu'il a déjà en tête qu'il va archiver et qu'il va ensuite représenter, refotographier ce qui est normalement destiné à disparaître. Et ça continue, en fait, avec cette photo dans un... On a le train, le porte-conteneur où on met donc ces grands yeux d'une Kenyane. Donc effectivement, ils sont fugitifs parce que ils sont censés juste passer. Donc ils explosent comme ça, ils explosent même presque au regard. Mais ça n'est qu'un temps donné. Sauf que là, ils sont photographiés, figés, et que ça donne plus du tout la mesure finalement de ce geste-là. Quand il reprend une photo de Bourdin par Agnès Varda et qu'il la met sur un blocos et que l'instant d'après ou le jour d'après, elle est complètement avalée par la mer, et bien là aussi, il en fait une photographie qui vient fixer ce qui normalement ne devrait pas être vu en dehors du lieu où c'est exposé. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une contradiction là-dedans. J'ai trouvé ça du coup assez figé, et du coup presque tous ces trains électriques qui sont là, ces gadgets, ces fresques vidéo sont là pour réanimer ce qui est un petit peu immobilisé ou figé dans des dispositifs qui ne correspondent pas au projet.
Voilà, moi je n'ai pas vu l'exposition, mais au vu du catalogue, on a l'impression que la MEP a quand même essayé de construire une forme d'interactivité avec, oui, bon, vous appelez ça des gadgets, mais il y a une sorte de peut-être même de maquette, enfin de travail aussi sur la miniature par rapport en effet au gigantisme du projet. Yasmine aussi, absolument. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être à quoi ressemblent ces pièces-là?
Non, mais il y a plusieurs tentatives hein, pour essayer de rendre justement ce que vous dites, hein, Florian, l'art urbain dans l'espace, et puis cette performance de Gier, quoi, qui raconte lui-même. Alors, il y a des comme je suis une véritable brêle pour tout ce qui est
ne dites pas ça, dites néophyte.
Voilà, néophyte. Alors, il y a comment ça s'appelle les QR codes qu'il faut flasher, oui, pour voilà.
Oui, des petits codes pour les smartphones, pour les voilà, téléphones intelligents.
Donc voilà, pour les téléphones intelligents. Donc là, vous avez effectivement la voix de Gier qui vous accompagne, qui vous raconte. Ça se fait de différentes manières dans les expositions, mais là, ça le permet aussi. Mais c'est marrant parce que moi, ce sont vraiment, contrairement à vous, ce sont vraiment les photos toutes simples du train. Par exemple, qui traverse une vue aérienne du train avec les yeux, qui finalement arrive à donner plus ou moins la mesure de ce qu'il fait et de l'inscription de cette œuvre dans l'espace urbain, et pas du tout tous ces gadgets qui paraissent complètement artificiels, qui paraissent décoratifs, qui sont vraiment presque qui répondent mais presque de manière caricaturale à ce qu'on attend de l'art contemporain entre guillemets en galerie ou dans des galeries comme chez Perrotin, quoi, c'est-à-dire quelque chose d'un peu spectaculaire, quelque chose qui en jette, quelque chose qui soit fun, quelque chose voilà. Il y a ça, il y a la maquette du bateau avec les grues qui prennent le conteneur, qui avancent, qui reculent. Bon, mais so what?
J'ai lu qu'il y avait quand même beaucoup de documents pour justement attester, bon, légitimer peut-être, après on peut revenir à la question de l'imposture, Florian, oui, sur la manière dont il travaille, et notamment des choses en lien avec les préfectures des villes, pour voir à quel point il n'a pas eu l'autorisation, puis finalement il a eu l'autorisation de travailler sur un sol ou sur un... Florian Guettet.
Oui, et puis c'est presque une promesse même dans ce titre, hein, oui. C'est vraiment rentrons dans la fabrique de JR, dans les coulisses. Alors moi, j'ai trouvé ces pièces assez belles, elles sont donc en plexi, ce sont des maquette, effectivement, il y a des plans et des superpositions, oui, de ces photos collages monumentaux, mais en tout petit, etc. Mmh. Donc, il y a un jeu d'échelle qui peut être intéressant, et puis il y a une esthétique un peu indus, post-indus, qui m'intéresse. Néanmoins, je trouve qu'on rentre pas non plus dans la fabrique, parce qu'effectivement, ça reste sur un constat très administratif. Moi, le grand manque pour moi, c'est où est l'équipe? C'est-à-dire qu'il est entouré quand même de dizaines d'assistants, qui font quand même en grande partie le boulot. Il y a pas un mot sur eux.
Presse, il y a beaucoup de choses. On arrive à comprendre un peu comment ça fonctionne.
Mais même avec quand vous flashez là le machin que je connais pas là, le QR code.
Flash code.
Voilà. il parle quand même un peu de ses équipes aussi.
Oui, enfin, ça reste hyper fugitif, ouais, pour le coup. Mais non, ça reste, ça ne les met pas en avant à la mesure, en tout cas, de leur travail et enfin, sans leur soutien, il est pas grand chose, quoi. De la même façon, on nous dit toujours, voilà, il y a un côté un peu de l'air de leçon, hein, sur rendons de la visibilité, faisons un contre-regard, proposons un contre-regard au regard médiatique, montrons tous ces jeunes des banlieues, déformons leur visage comme on déforme, etc., dans les médias, leur photographie. Mais on n'en sait pas plus sur leur histoire, on n'est pas dans une empathie avec eux, on n'est pas dans le témoignage non plus, donc je me demande en fait à quel moment ça agit véritablement, à qui ça parle, et on ne doit pas jouer le jeu des institutionnels, mais finalement cette fresque, les chroniques de Montfermeil, finalement quand elle est inaugurée sous l'égide de François Hollande, président de la République à l'époque, il propose de la conserver, la faire classer, et de la faire classer, donc là aussi finalement à qui s'adresse-t-il?
Boris, à truc.
Moi, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a une vraie ambivalence sur ses motivations finales, parce que je trouve que c'est un personnage éminemment paradoxal, parce que dans sa manière d'être extrêmement touche-à-tout, Et d'arriver à enjamber comme ça toutes les frontières sociales à la fois, parce que c'est le cas d'un transfuge absolument parfait de Montfermeil aux Oscars d'Hollywood, géographique parce que le lundi il peut être dans le désert texan et le mardi il est de retour à Montfermeil et mercredi il est avec Agnès Varda sur les plages de je ne sais quelle plage française. Et disciplinaire aussi parce que il faut dire aussi que c'est un créateur de ballet. Il a fait un ballet avec à New York, je crois. Il est comme ça dans un touche-à-tout tellement radical que je ne sais pas son parce que sa manière comme son travail vise vraiment à inverser la charge négative qu'on a associée à certains groupes, à certaines minorités. Je trouve qu'il joue vraiment avec cette idée d'empathie à travers le regard, à travers les visages. Mais finalement, c'est des projets qui se retrouvent tellement à chaque fois à peu près similaires, que ce soit les favelas du Brésil
ou les
femmes nigériennes. Je trouve qu'il y a un manque de spécificité et que du coup, c'est dilué dans une espèce d'universalisme comme ça, d'empathie qui manque pour moi de force.
Politique même.
Oui, de transformation. Je pense que ça vise un peu à nous faire changer le regard, mais changer le regard pour avoir quelle opinion sur ce qui pointe du doigt, je suis pas sûr.
Yasmine aussi.
Je voudrais mettre un bémol par rapport à ça. Je trouve que peut-être on y est arrivé aujourd'hui, mais si vous vous souvenez du travail de JR au début, quand même c'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu. Je suis pas d'accord avec le terme d'imposture. Pour moi, c'est pas du tout une imposture. C'est pas parce que les gens ne viennent pas de banlieue qu'ils ne peuvent pas en parler. Je trouve qu'au contraire, le travail qu'il a fait sur Montfermeil est vraiment montré au moment des émeutes. Ces visages-là, les présenter dans Paris, sur les murs de Paris, il y avait quelque chose de très très fort. Il y avait quelque chose d'assez inédit. Il y avait une sincérité aussi, alors qu'on peut aujourd'hui remettre en cause. Moi, je le ferai pas. Ça fonctionnait très bien. Alors peut-être qu'on y est arrivé. Moi, le côté touche à tout, au contraire. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose qui donne aussi la mesure de la complexité du personnage. Et ce qui est dommage, c'est que cette exposition finalement presque a fadi. Un travail que je ne trouve pas, que moi je trouve beaucoup plus profond que ce qui est donné à voir.
Florian Guettet, il faut peut-être en effet faire la différence entre le fond du travail de JR, je m'attendais pas honnêtement à ce que vous soyez tous des grands fans de JR, et l'exposition à la MEP, qui peut être une très bonne exposition sans qu'on apprécie le fond du travail de JR. Vaste question.
Non, j'ai l'impression que les défauts de l'exposition sont aussi dus à des formes d'imprécision sur sa posture à lui, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai lu comme ça, c'est-à-dire que faire du gigantisme, faire du monumental, aller dans l'espace public, et puis ensuite réduire tout ça pour les contraindre aux espaces de la MEP.
Qui sont en plus assez réduits, hein, la MEP. Il faut dire
oui,
que
et on
un
le voit
un
par exemple sur les géants, c'est sur la fin de l'exposition, il y a donc les géants, ce sont ces grands personnages qui ont été floqués, enfin collés sur des échafaudages pendant la construction des JO de Rio, et ça ne fonctionne pas effectivement, quoi. On a une nageuse ou une plongeuse qui est un peu coincée, on va dire, dans l'espace. Ensuite, on a des réductions, des miniatures de ce qui est monumental. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une contradiction dans les termes. On n'a pas la sensation de l'échafaudage. Et puis on a des gens comme ça à Berlin, en Syrie, dont on imagine qu'il y a une force derrière. Qui les a pas pris par hasard, ces gens-là, etc. Mais on n'a aucune indication sur eux, quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi des photos du Havre qui sont mises en plein milieu. Donc, où là, on comprend pas trop, je sais pas vraiment la logique qui a poussé à ça. Non, moi, de toute façon, je m'en fais pas pour cette expo, hein, qui a vraiment. Qui se passe très bien au niveau public.
On peut pas réduire l'œuvre de JR à ça. Le travail sur le mur entre Israël et les territoires palestiniens, par exemple, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Il fallait oser le faire.
Non, mais j'aurais été prêt à dire du bien, attention.
Oui, non, il fallait vraiment oser le faire. C'est pour ça que je peux pas. Le terme imposture vraiment me gêne.
Boris, un dernier mot.
Mais moi, je trouve que sur ces zones de conflit où il va régulièrement, il y a beaucoup d'artistes qui produisent des œuvres beaucoup plus précises, beaucoup plus intéressantes à mon goût. Et je trouve qu'il a moi je remets absolument pas en question sa sincérité. Je pense que c'est quelqu'un d'absolument sincère et qui se sent sans doute extrêmement concerné par toutes les problématiques qu'il soulève comme ça. Voilà, je remets pas en question sa sincérité, mais plutôt les moyens, les méthodes dont il se sert, et puis le résultat visuel. Et je pense qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes chez JR et qui sont pas dans l'exposition, effectivement.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Je pense la chose qui m'intéressait le plus, c'était le projet qu'il avait fait sur le mur qui sépare le Mexique de la Californie. Il avait fait comme ça, au-dessus du mur, cette image d'enfant qui a l'air de traverser comme ça le mur. Et j'avais lu aussi sur... parce que c'est assez facile de trouver des informations sur la manière dont il a construit son travail. Et je trouve qu'il l'avait fait avec beaucoup d'instinct, comme ça. Il avait un instinct en voyant cet enfant, que ça pouvait être une espèce de métaphore de ce conflit comme ça, et qui permettait de créer un lien entre les Californiens et les Mexicains. Et je trouve, dans cette forme de naïveté, je pense que parfois il peut être assez bon en créant une forme de lien, en créant comme ça un dialogue peut-être entre deux cultures.
Florian Guettet, un dernier mot.
Oui, non, l'imposture, c'était entre l'hésitation entre l'institutionnel et la clandestinité et l'art urbain. Moi, je trouve que là où il est fort, c'est pas forcément d'ailleurs dans la qualité même de son travail, mais dans sa capacité à emprunter les stratégies des codes médiatiques qu'il est en train de dénoncer. Et c'est effectivement tous les projets dont on vient de parler qui ne sont pas dans l'expo, malheureusement. Ce sont ceux, en même temps, qui ont été les plus visibles à travers la planète. Et ça, pour le coup, on peut pas lui enlever ce mérite-là.
Voici donc pour JR Momentum, la mécanique de l'épreuve. L'exposition se tient à la Maison Européenne de la Photographie, c'est jusqu'au 10 février prochain. À noter également qu'il existe un catalogue paru aux éditions Clémentine de la Ferronnière, dans lequel d'ailleurs on voit tous ces projets qui ne sont pas exposés à la MEP. À suivre dans la dispute, les nadars, le coup de cœur de Florian Guettet pour Stéphanie Solinas et la photo comme arme de classe.
La dispute, France Culture. Get the right.
On poursuit ce soir avec une autre exposition assortie d'ailleurs d'un très riche catalogue, la photographie comme arme de classe. Elle est signée Damaris Amao, Florian Ebner et Christian Joschke. Ça se passe dans le petit espace que le centre Pompidou réserve au sous-sol à la photo. Deux pièces donc, avec beaucoup de pièces à voir, que sépare et relie à la fois une bande rouge tracée à mi-hauteur de mur, tandis que résonne dans de petits haut-parleurs des textes militants. La période est extrêmement précise, 1928-1936. Celle de la naissance en France de la photographie sociale et documentaire. On y voit de nombreux documents, photos, couvertures de journaux, illustrations, lettres et manifestes. Et on y croise les noms, entre autres, de Willie Ronis, Germaine Creul ou encore Henri Cartier-Bresson.
Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons.
Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Comment ? Alors, voulez-vous être augmenté de 1000 francs ? Vous acceptez ?
C'est pas assez.
Mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe. Chef, mais c'est une question de principe.
Alors, voulez-vous un an de repos ? Et le droit de parler argot.
C'est beaucoup trop.
Être menés à la baguette, chef, cela ne nous convient pas.
Boris Atrux, c'est vous qui nous menez dans cette exposition. Le premier, qui voit-on ?
Alors, c'est une exposition qui mériterait, je pense, dix fois la surface qu'elle a. C'est un bémol sur lequel je pense tout le monde reviendra. Parce que c'est un projet qui, en cherchant un peu, j'ai vu que c'est un projet qui avait au moins 3 ou 4 ans de travail derrière, avec à la fois les équipes du Centre Pompidou, vous les avez nommées, et puis aussi en lien avec des universités, avec le label Art H2H. C'est un projet qui est construit avec de nombreux chercheurs, de nombreux thésards notamment, et qui donc a créé une quantité de travail, de trouvailles surtout, parce que C'est en se basant sur la collection de Christian Boucret que le Centre Pompidou a acquis récemment, ou qui lui a été donné plutôt. C'est donc cette, une immense enquête sur le ce moment assez court, en fait, c'est 8 ans, ce moment où la photographie devient vraiment un instrument de critique sociale et une art militante. Et c'est pris dans un ensemble de débats pour lequel c'est assez difficile de se retrouver dans l'exposition, parce que c'est assez complexe. Donc on a la création de revues, notamment, c'est très intéressant pour le travail qu'ils ont fait sur les revues et les trouvailles qu'ils ont fait, où ils ont pu mettre en relation les photographies donc qu'ils avaient dans les collections, et puis le moment où elles apparaissent dans les revues, parce que c'est vraiment une décennie comme ça où des revues militantes émergent. On a notamment la création de Vue en 28, et puis en 28 aussi de Regard, qui prendra différents noms, et puis d'autres aussi que j'en ai fait une petite liste. Je crois qu'il y a l'Almanach ouvrier, Commune, Communiste. On a aussi une revue qui s'appelle Femmes dans l'action. Donc il y a énormément comme ça de revues, et c'est j'ai trouvé que c'était un des aspects les plus intéressants, de voir que pendant ce moment et ce mouvement de repolitisation de la scène artistique, par notamment tous les sympathisants communistes et socialistes, on avait un nouveau type de document qui commençait à circuler, et la photographie sortait du mur, sortait du cadre, et était vraiment investie d'une nouvelle fonction, d'une nouvelle fonction assez utopique de comme ça changer l'opinion en sortant de la galerie.
Florian Guettet. Oui, donc, c'est vrai que c'est très très dense.
Ouais, c'est beaucoup trop dense. C'est clair que la galerie de photographie, dont on a déjà dit que c'est un problème qu'elle soit si réduite, n'est pas du tout à la mesure des ambitions de ce projet-là. En plus, c'est vrai qu'il se porte sur une quasi-décennie, donc avant 1936, en sachant qu'on a souvent eu des expositions sur le Front Populaire, sur la guerre d'Espagne, et sur l'engagement, et sur Picasso et l'engagement, et sur les expositions universelles de 1936, mais peu de choses sur ce qui a conduit finalement à ça. Donc je trouve que cette contextualisation, elle est importante, qu'elle aurait mérité effectivement un peu plus de place. Maintenant, il y a un choix quand même dans cette sélection qui me pose vraiment question. C'est que on annonce quand même la photographie ouvrière, et l'exposition s'ouvre sur les appels de tous les journaux dont vous avez parlé, qui effectivement sont des organes du Parti communiste ou pas, ou en tout cas qui sont proches de la gauche radicale de l'époque, qui lancent des appels aux ouvriers à prendre en main ces appareils photos instantanés qui se démocratisent. On leur offre la possibilité d'ateliers, de formations, de concours, pour qu'ils puissent vraiment prendre en main leurs appareils photos, et donc diffuser ensuite ces photographies. Or, il n'y a qu'une poignée finalement de ces photographies, qui sont d'ailleurs des photographies anonymes, comme s'ils n'avaient pas de nom. Et en revanche, on a derrière toute une pléiade de photographes qui à l'époque n'étaient pas les plus connus, mais qui le sont devenus. Donc Henri Cartier-Bresson, Germaine Crou, Lili Lothar, Willy Ronis, Brassailles, Breton, Pierre Jamet, Jacques-André Boiffard, André Papillon, Henri Tracol, André Kertet, etc., etc. Sauf que tous ces gens-là sont des bourgeois, sont des gens qui sont issus de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, voire de la grande bourgeoisie. Ils sont fils de notaires, de médecins, de chefs d'orchestre. Donc ils ont un regard, et ça n'enlève rien à leur engagement, évidemment, mais je trouvais que c'était contradictoire, ou en tout cas déséquilibré, par rapport au projet initial de montrer ce qu'était la pensée ouvrière. Et on voit d'ailleurs que les choix sont pas du tout les mêmes. Quand les ouvriers proposent des photographies, ils sont attentifs à leurs conditions de travail, à leurs conditions notamment de la sécurité pour les métallos, pour les agents du gaz. Tandis que les grands photographes professionnels qui vont prendre la main au début des années 30, en fait, très très vite, eh bien eux vont se porter sur une analyse sociologique, sur la grandeur du peuple ou de la foule, sur des sortes de portraits un peu typographiques du boucher, la paysanne, le poissonnier, etc. Ou avec même presque une petite complaisance à montrer la pauvreté, qui sont toujours montrés à la dérobée, comme si parce qu'ils étaient pauvres, on n'avait pas à leur demander autorisations ou à les faire poser. Donc on les voit fouiller dans les poubelles, on les voit allongés, on les voit on prend leurs pieds, les pieds usés, etc. Donc je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui moi m'a embêté, qui ne se reflète pas du tout par exemple dans le catalogue, qui lui est beaucoup plus riche, et qui, voilà, je trouvais que l'expo n'était pas à l'image du grand travail de recherche qui a été fait avant.
Sur la contradiction, en effet, le mot en fait photographie comme arme de classe vient d'un manifeste que j'ai pas cité, mais qui est un texte d'Henri Tracol qui a été publié en 33. Et ce manifeste est lui-même tout empli de paradoxes, puisqu'il s'agit de se saisir d'un moyen bourgeois qu'est la photographie soi-disant objective pour le retourner contre la bourgeoisie. Mais de fait, le moyen, il est quand même il est bourgeois. Yasmine aussi, premier regard sur cette exposition.
Vous, Florian, ça vous a embêté? Moi, ça m'a mis colère, comme dirait Montjulio. Mais vraiment, c'est une expo qui m'a mis très, très en colère. Parce que d'un sujet passionnant, mais vraiment passionnant, hein, la photographie documentaire et sociale en France au début des années 30, d'un corpus assez exceptionnel, vraiment un ensemble de photos inouïes, on se retrouve avec un délire de commissaire. Moi, je comprends mieux parce que quand vous dites effectivement que c'est des thésards qui ont aidé tout ça, je comprends mieux. Un délire de commissaire qui se fait plaisir sans penser une seconde au public. Dans une institution qui a une mission de service public, ça me pose problème. Franchement, ça me dérange. Donc, on se retrouve avec un ensemble qui est non seulement saturé, et donc illisible, mais totalement incompréhensible. Une scénographie qui a voulu reproduire une mise en page des revues des années 30. Il y a un moment, vous devez carrément mais vous allonger par terre pour voir certaines photos, quand même, il faut le dire. Des photos qui sont les légendes, c'est un peu n'importe quoi. C'est souvent indigent, alors que pour ces photographes-là, quand même, c'est à ce moment-là, dans l'histoire de la photographie, que les photographes commencent à rédiger des légendes qui sont extrêmement complètes. Le pire, c'est que, mais vraiment, rien n'est expliqué, quoi. On vous montre, par exemple, un ensemble d'images d'un institut pour l'étude du fascisme. C'est celle où, vous savez, vous devez vous allonger par terre pour les voir.
En 1935,
oui. Oui, voilà. Sans vraiment vous expliquer ce que c'est, ni comment ça a été créé, ni qui c'est, pour ça, il faut lire le catalogue. Alors, une expo gratuite, bah, vous rajoutez 50€ de catalogue, ça fait quand même un peu cher l'expo gratuite, quoi. Les cartels sont totalement incomplets. Vous voyez Nora Dumas, vous voyez les paysans de Nora Dumas, vous savez pas d'où ils viennent. Moi, ils m'avaient l'air soviétiques, non, mais bon, c'était la photographie, on nous explique que c'est la photographie en France. Bon, dans ce cas-là, si c'est la photographie en France, pourquoi il y a Manuel Alvarez Bravo et le Mexique? Donc, déjà, je suis un peu perdue. Il y a un crime de lèse-majesté, c'est qu'il n'y a pas une photo de Capa. Je ne peux pas l'accepter. mais vraiment, enfin, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Je dois dire que je tombe un peu de ma chaise quand on découvre que Beaubourg découvre que avant 36, il y a eu une photographie sociale en France. Mais enfin, toutes les expos de l'expo Cartier-Bresson, quand même, le montrait bien avec les photos qu'il faisait, les photos quand il part au Mexique, je crois que c'est en 36, il fait ses photos à Marseille, enfin, les photos qu'il fait à Marseille, toutes les expos qu'on a vues au Jeu de Paume, Germaine Krull, tout ça, on le voit quand même. Et puis, il y a quand même aussi un problème, c'est que tous ces photographes-là ont un lien très très fort avec les surréalistes. Ils viennent tous du surréalisme. Et ça, c'est pas assez montré.
C'est vrai, c'est pas assez montré, mais dans le catalogue, pour le coup, bon, c'est vrai qu'il faut
trouver
le catalogue. Oui, en fait, on a un peu l'impression, enfin, moi, c'est mon impression, je serais pas aussi en colère que vous, Yasmine aussi, parce que je pense que les intentions sont quand même louables, mais ce sont des intentions d'universitaires, et on a l'impression de se promener au milieu des sources d'un groupe de chercheurs qui travaillent sur une période donnée.
Ils se parlent entre eux. Et
bon, j'irai pas jusque là, Boris,
truc. Non, moi, j'irai pas jusque là non plus, mais peut-être l'hypothèse aurait été de faire un choix radical dans ce qu'il aurait fallu montrer. Et donc, échapper au souci d'exhaustivité et se dire que, moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est le photomontage. Il y a une grande partie sur le mur de droite, quand on est vers la fin, qui est consacrée au photomontage. Et on voit que le photomontage a été un des moyens les plus musclés et les plus inventifs formellement de tous les artistes qui étaient extrêmement engagés contre les riches de la promenade des Anglais, contre le parlementarisme, la police, le colonialisme, le fascisme. Et
vous avez une photo peut-être en tête, enfin un montage qui vous a...
Il y a deux montages notamment qui sont vraiment fascinants. Le premier qui est dans une vitrine qui est ce projet d'affiche pour le désarmement avec... Pardon ?
C'est celle de Willy Ronis ?
Ce n'est pas celle de Willy Ronis, mais j'ai oublié le nom de la personne qui a créé l'affiche. Et on voit tout le processus de montage de l'image. Et il y en a une autre, la couverture d'un numéro spécial de revue Tout est foutu, qui est sur la montée du fascisme. Et on a à l'intérieur, j'ai pu trouver quelques images qui ne sont pas dans l'expo, mais où on a des montages sur la montée du fascisme et qui comme ça connectent la scène française avec la scène allemande, la scène soviétique, notamment pour cette espèce de renouveau formel. Mais je pense que peut-être qu'il aurait fallu axer l'exposition peut-être notamment sur la tension qu'il y avait entre les photographes ouvriers dont Florian a parlé avant et l'AER, qui est l'association des artistes et écrivains révolutionnaires, qui eux étaient les photographes déjà professionnels, qui allaient après 36 devenir vraiment les photoreporters qu'on connaît tous, Cartier-Bresson, on pourrait en citer beaucoup, qui étaient aussi beaucoup constitués d'artistes immigrés d'Europe de l'Est. Et je pense que dans cette tension entre amateurs et professionnels, entre qui signe et qui ne signe pas les reportages, parce qu'il y avait aussi certains photographes connus qui décidaient de ne pas signer, donc qui décidaient d'être anonymes en soutien un petit peu aux photographes amateurs. Je pense qu'en accent sur cette tension-là, ça aurait été assez passionnant.
Florian Guettet.
Oui, alors donc il n'y a pas d'esthétique ouvrière à chercher là-dedans, même si l'actualité fait qu'on a envie de chercher un petit peu du côté du post-soviétisme, mais on ne trouve pas...
On y pense quand même, on y pense à l'actualité, moi ça m'a quand même la manière dont on photographie une foule, selon qu'on est d'un côté ou un autre, une manifestation,
puis,
c'est quand même des choses qui donnent un petit peu à penser.
Les répressions policières, le post-colonialisme finalement est déjà là, en plein milieu du colonialisme, etc. Donc et puis les montées de l'extrême droite, effectivement, il y a des répétitions. Bon, on n'a peut-être pas besoin de l'expo pour s'en rendre compte, mais c'est vrai que ça vient apporter une preuve supplémentaire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le réalisme en fait de ces photographies-là. C'est le moment où on se dit finalement la photographie, elle apporte une preuve indubitable. En plus, comme il y a des progrès, les lieux-gravures, etc., ça devient de plus en plus précis. Et on a comme ça une sorte de frontalité finalement de ces représentations-là qui deviennent publiques. Néanmoins, puisque je n'ai pas d'esthétique ouvrière, je suis allé du côté des professionnels. Moi, il y a quand même des œuvres qui m'ont plu quand même. Il y a au moins trois œuvres sur lesquelles j'aimerais revenir. André Cartet avec l'Hôtel de l'Avenir, ouais, qui est une prothèse de jambe abîmée sur un lit qui n'est pas fait et qui est, elle est faite en 29.
En 27.
Oui. Non, 29. 29, et elle est évidemment tristement prophétique. Ouais. Et c'est
dont on peut imaginer qu'elle est tellement sombre qu'il y a un corps, mais qu'on ne le voit pas, qu'on n'y a pas accès sous les draps.
Exactement. Et c'est vrai qu'il y a un appel comme ça du hors-cadre. Claude Cahun, que je m'attends pas forcément à voir là, avec une petite figurine en papier mâché à partir de papier journaux de l'UMA, avec un titre délicieux, prends un petit bâton pointu, une pièce de 1936, et puis un Willy Ronis, On travaille pour la guerre, avec une très simple, très conceptuelle, une cheminée d'usine renversée qui devient une sorte de canon.
Un dernier mot, Yasmine,
oui,
c'est peut-être
ça,
une photo.
Allez. Non, moi aussi, la photo de Kertész, je crois que c'est celle que je retiendrai. C'est vraiment, j'ai l'impression de pas l'avoir vue, alors que c'est quand même, c'est quand même Kertész, quoi. Et là, elle me hante, cette photo depuis l'exposition. Et c'est peut-être l'une des seules que j'ai retenues, parce que, il y a un corpus qui est quand même assez exceptionnel. Il y a Boiffard, il y a Lisette Model, il y a tout ça. Mais, comme ils sont les uns sur les autres, saturés de textes qui sont pas les légendes, qui sont les textes des commissaires, il y a un moment, je voyais plus rien.
Moi, j'ai vu justement une intention au fait qu'il y a assez peu de légendes et je voyais justement une sorte de manière de ne pas faire de hiérarchie entre les anonymes.
Mais vous pouvez
les
pas
anonymes
ne pas mettre
les...
de légende pour de la photographie documentaire, enfin surtout pour cette époque-là, c'est un non-sens. C'est vraiment un non-sens.
Sur ce, la photographie arme de classe, c'est quand même visible jusqu'au 4 février prochain. Et c'est en entrée libre, vous le disiez, Yasmine, au sous-sol du Centre
Pompidou. Et 50 euros le catalogue.
Le catalogue, mais qui est extrêmement fourni, bon, qui est certes très exigeant, mais c'est un vrai travail universitaire pour le coup. C'est une coédition entre Pompidou et Textuel. Dans quelques instants, on se disputera à propos de l'exposition Nadar à la Bibliothèque Nationale de France. Mais tout de suite, c'est le coup de cœur de Florian Guettet. Et Florian, comme vous êtes extrêmement zélé, vous avez choisi de la photo. Et votre cœur bat pour Stéphanie Solinas Haunted, Lost and Wanted, qui se tient à la Galerie Gradiva jusqu'au 11 janvier prochain. Il va falloir donc se précipiter.
Oui, oui, et puis courez-y. Alors c'est de la photographie, mais c'est la photographie plasticienne. C'est-à-dire que l'image fixe, elle devient vite vidéo, son, sculpture. Moi, ce qui me plaît chez elle, et depuis plusieurs années, c'est l'élégance formelle. C'est vraiment l'art de bien choisir ses formes et tout est tiré au cordeau, allié à des recherches documentaires extrêmement rigoureuses, passionnantes, absolument passionnantes. Et je trouve que dans cette galerie que je ne connaissais pas, qui est une galerie cossue du Quai Voltaire, qui accueille très peu d'art contemporain simplement par session sous le commissariat de Camille. De Famine Lambert. Eh bien, je trouve que cet environnement-là, l'huissier, parce qu'il permet de rendre justice à cette élégance-là. Alors, c'est une réflexion sur le médium photographique qu'elle mène en fait depuis le début de son travail. Une réflexion sur le statut de l'image photographique, à savoir est-ce que c'est une preuve objective ou est-ce que c'est le moyen de révéler des choses que l'on ne voit pas à l'œil nu. C'est tout le propos de le pourquoi pas qu'on voit dans le rez-de-chaussée du nom d'un navire d'un fils de Charcot qui s'est échoué sur les côtes islandaises, et elle revient sur une enquête qu'elle a menée sur cette île, aux croyances encore très vives, dans les génies, les médiums, les fantômes, qui font vraiment partie du quotidien. Et donc on est accueilli par la récit d'un guide spirituel qui raconte ce rapport aux forces invisibles, par des cyanotypes qui sont employés comme pour révéler les fantômes des esprits qu'on ne peut pas voir quand on n'est qu'un humble mortel, des moulages de doigts qui est un sort de leitmotiv dans l'œuvre de Stéphanie Solinas, parce qu'elle préfère toujours le montrer ou démontrer. Et puis des extraits d'un guide qu'elle a conçu elle-même pour s'orienter dans ces paysages de superstition. Et elle renoue véritablement avec l'idée de l'image fantôme, qui est vraiment une vraie tradition en photographie, la dimension spectrale de cette photographie-là, qu'elle prend littéralement au mot avec une série qui s'appelle Déserteur, qu'on voit en haut de l'escalier, où elle est allée prendre les tombes du Père Lachaise dont les inscriptions s'effacent avec le temps. Et qui restent donc des sortes de fantômes sans nom, sans identité. Sa réflexion finalement était de promouvoir une forme d'indécision entre la raison et la croyance à partir de ce médium photographique. Elle a elle-même fait des études en mathématiques avant de se diriger vers l'art, donc elle est elle-même dans cette sorte de d'écartèlement entre l'explication rationnelle et la croyance. Elle s'intéresse autant à des généticiens qu'à des médiums quand elle va en Islande. Et elle revient dans L'Inexpliqué, qui est le deuxième corpus qui nous est présenté, qui a été en fait réalisé pendant sa résidence, puisqu'elle était pensionnaire de la Villa Médicis l'année dernière. Et elle revient sur les miracles, les épiphanies, les reliques, c'est-à-dire tout ce corpus d'images religieuses catholiques, plus précisément, qui sont censées prouver des existences qu'on ne peut pas toucher. Et donc l'image, elle viendrait là, dans ce pouvoir d'induction de la représentation de l'art, à nous faire advenir des choses que l'on ne peut pas atteindre. Alors je pense à cette pièce sonore d'un miracle dans un village qui est applaudi, je pense aux doigts de Galilée, à un détail d'un Christ du Caravage, ou à une reprise du Saint-Thérèse d'Avila de Bernin, qui montre bien que chaque iconographie est toujours accompagnée de sa mise en scène dans laquelle elle est présentée, que c'est cette mise en scène finalement qui va donner ou non de la consistance à la preuve photographique. Et donc finalement, en tant que spectateur, c'est à nous de décider si on met ou non à l'index ces fantômes de l'imaginaire, ou si au contraire, on en fait des garde-fous de la raison.
Haunted, Lost and Wanted, l'exposition de Stéphanie Solinas se tient à la Galerie Gradiva, c'est donc jusqu'au 11 janvier prochain.
France Culture, la dispute.
Nous nous rendons désormais au pied des tours de la Bibliothèque nationale de France, cite François Mitterrand, à la poursuite des Nadars, la famille de photographes français dont la production rencontre largement notre imaginaire du 19e siècle et ses grandes figures littéraires et artistiques. On a beaucoup parlé de Félix Nadar, patriarche autoritaire, mais dans cette exposition, ils sont au moins trois, Félix, Adrien Tournachon et son fils Paul, rendant ainsi justice aux frères et aux neveux. L'exposition donne donc à voir des centaines de leurs clichés, de Baudelaire à Sarah Bernhardt, mais aussi de très fameux autoportraits. gaieté sur cet air joyeux. Est-ce que vous avez dansé dans l'exposition des nanars?
Oui, oui, oui. Alors plutôt, comme d'habitude, la BNF n'est pas dans l'économie, hein, ça saurait. Mais j'ai trouvé cette exposition-là assez, assez réparatrice, assez allez,
c'est déjà. Parce qu'il y a de la moquette par terre, non?
Oui, c'est pas. Mais c'est Joséphine Baker, voilà. C'est toutes ces comédiennes qu'on voit aussi. Non, il y a voilà, c'est une expo qui cherche vraiment à corriger une vision erronée du mythe nadar qu'on a évidemment tendance à réduire à Félix, qui d'ailleurs au moment où les trois nadars expose n'est pas du tout le cas. Hein, je veux dire, ça s'est fait vraiment après. Alors effectivement, il y a ce Paul, cet Adrien. Enfin, d'abord ce Félix, cet Adrien, son frère, son Paul, le fils de Félix. Mais il y a aussi les femmes, il y a Ernestine, il y a Marthe qui sont présentes, hein, qui tiennent plutôt les rênes des ateliers et à qui on doit notamment d'avoir pu faire persévérer hein, cette œuvre-là. Moi, j'ai trouvé que c'était une exposition. Alors, elle est toute en courbe, comme ça. Elle est, donc, on opère comme sempiternellement, pardon, des glissements entre les trois, et j'ai trouvé que ça cherchait plutôt à révéler les continuités plutôt que les ruptures, parce qu'on sait qu'effectivement Félix et Adrien sont dans une posture de rivalité, hein. Alors, Félix c'est l'extravagant qui prend les choses en main, qui a des grandes jambes, qui est myope, et à côté son frère le séduisant un peu plus discret, qui fait la photographie hein, de manière plus succincte, hein, puisque c'est sur 8 années je crois, hein, 7 années, 54-61. Qui est apprécié par la critique. Hein. Il y a notamment une histoire en 1855 sur l'Expo universelle où Félix est un peu éclipsé par le succès de son frère. Donc on a ces formes de rivalité qui sont pas écartées, mais qui cherchent plutôt à montrer une forme de dynastie, de transmission qui s'est fait au-delà de ces ruptures-là.
Yasmine Youssi, peut-être un premier mot, puis après je vous redonne la parole, Florian.
Ah mais c'est une exposition qui est remarquablement troussée, vraiment, qui est pétillante. Je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle raconte aussi bien une histoire de la famille Nadar que une histoire de la photographie qui sur un siècle, hein, de la moitié du 19e jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'une histoire de la société française aussi et des mœurs, enfin de la société qu'on peut lire à travers les costumes, à travers les décors, comment tout ça évolue. Et puis une histoire aussi culturel, enfin artistique et culturel de la France, parce qu'ils ont tous photographié les artistes de leur temps. Donc c'est un ensemble comme ça, jamais lourd. Vous disiez c'est tout en courbe. Moi j'avais l'impression que c'était vraiment une ronde. Mmh. Et ce que j'ai trouvé très très bien, même si des fois je me disais j'aurais bien aimé avoir les photos, les mêmes portraits qu'ils ont fait côte à côte. Là ils ont pris le parti, la BNF a donc pris le parti de présenter chacun séparément et de donner à voir son travail de manière assez extensive. Je trouve qu'on voit très bien la personnalité et le style de chacun. Vraiment. Pour moi, Nadar, c'est Félix. Oui, Nadar, c'est toujours Félix. Lui, pour moi, c'est le créateur de génie. Pour moi, il est vraiment inégalable. Non seulement il a inventé des procédés, c'est-à-dire que en 1861, par exemple, il dépose le brevet de la photo de l'éclairage artificiel, on le voit dans les égouts, c'est assez fascinant.
Les catacombes.
Dans les catacombes, oui, dans les catacombes, pardon. Ces photos, il y a un style, enfin, les décors sont dépouillés. Puis il a une manière de photographier. Quand il photographie Théophile Gautier, on a l'impression que c'est ses potes, vous savez, ses copains tels que les Champs de Brassens.
Autre style. Autre ambiance.
Dans le radeau de la Méduse. Il y a Adrien, c'est le demi-frère. Alors on était quand même les rivalités, enfin parce que Félix l'a quand même porté à bout de bras. Hein, Adrien, il y a eu un procès. Enfin ça a été quand même assez cinglant entre eux, assez saignant. Il y a une grande éloquence, moi je trouve, chez Adrien qu'on ne trouve pas chez Félix. On sent l'appareil. Alors que chez Félix, on a vraiment l'impression de voir les gens respirer. Et Paul, il a tété la photographie au sein de sa mère, quoi. Donc c'est vraiment lui, il va introduire Kodak, il va introduire l'instantané. On est à une autre époque. Enfin c'est le photographe, quoi. Il y a un génie, il y a un artiste parce que Adrien c'est vraiment l'artiste et il prend cette posture de bohème avec la lavalière. Et on voit remarquablement la personnalité, le style de chacun dans cette expo.
Boris Atrux.
Moi, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit déjà. Je trouve que c'est une exposition vraiment remarquable et qui qui arrive bien à tracer les similitudes et les différences entre les trois, et notamment entre Adrien et Félix. Moi, j'ai été extrêmement passionné par la carrière photographique d'Adrien, qu'on connaissait vraiment moins. Peut-être avec un peu plus de grandiloquence, parce qu'il a ce côté un petit peu plus, un peu plus dandy, un peu plus affecté. Mais quand même, ses portraits, il y a un certain nombre de portraits qui sont, notamment le double autoportrait, dont un est conservé aux États-Unis, avec un chapeau de paille, comme ça, une cigarette au bec, et puis le visage, comme ça, dans la pénombre, qui est, pour moi, la photographie qui me reste, qui va me rester, je pense, au fond de la rétine, encore pendant très longtemps. Mais je pense qu'on a assez parlé des portraits. Moi, vraiment, j'ai été très très surpris par la deuxième partie de l'exposition après les portraits, qui revient beaucoup sur les rapports entre art et procédés techniques
et travail d'ailleurs.
Et travail. Et notamment entre les rapports entre savoir et pouvoir, finalement, parce que ça concerne vraiment Félix et le fils et Paul, parce que quoique Adrien en fait aussi, parce que j'ai des exemples, j'ai plusieurs exemples de moments où la production de nouveaux modèles d'images et de nouvelles stratégies de visualisation et de normes va aller avec les conquêtes de la modernité. Et ça, c'est une partie qui est absolument passionnante. On a comment les photographies de chevaux et de vaches des concours agricoles d'Adrien se retrouvent liées avec l'amélioration des races d'élevage, et puis se retrouvent liées avec l'agro-industrie. Et en fait, on voit que les nadars sont pas isolés dans une tour d'ivoire. Ils sont pas les magnats comme ça du portrait, mais qu'en fait, ils accompagnent vraiment la modernité et tout ce qui peut être aussi vu comme extrêmement révolutionnaire comme ça en termes techniques.
Florian Guettet va finir par buzzer sur un champignon imaginaire tellement il trépigne à côté de moi, il a presque ses mains croisées au-dessus.
Non, parce que j'ai pas parlé des œuvres, et c'est vrai qu'il y a toute une partie abondante avec les portraits, les autoportraits. Il y a un moment de grâce pour moi, c'est Victor Hugo sur son lit de mort, baigné dans une lumière naturelle. Je pense qu'on peut vraiment se perdre dans cette photo-là, mais effectivement, il y a cette deuxième partie qui est passionnante, avec notamment les rapports avec la médecine. Alors on connaît les photos d'Adrien Nadar sur les expérimentations douteuses du chêne, hein, et là on voit aussi une petite fille aussi, hein, qui n'était pas épargnée par ses thérapies par stimulation électrique. Mais il y a une série exceptionnelle de Félix en collaboration avec Armand Trousseau sur une personne hermaphrodite, dont on voit quatre clichés. C'est un des premiers témoignages qu'on peut avoir de
clichés médicaux
de ce phénomène. Et puis il y a l'aviation. Alors là, moi j'étais, je connaissais pas du tout, quoi. Félix Nadar est un des premiers à anticiper le drone, hein, finalement, puisqu'il prend des photographies en 1858 depuis un ballon de Paris. En 63, il a un accident de ballon avec le géant, pardon. Donc il décide de reconstituer cet accident-là, et on a toute une série d'un accident de ballon.
Ils sont très drôles, ces photos.
Qui vont inspirer Jules Verne. Hein.
Et qui vont inspirer Jules Verne, puisqu'on a Michel Ardan, hein, c'est évidemment l'anagramme de Nadar dans 5 semaines en ballon.
Yasmine aussi.
Ah non, c'est vraiment une exposition qu'il faut aller voir. C'est pour moi, et c'est vrai que cette dernière partie, par rapport à l'histoire de la photo, raconter l'histoire de la photo comme ça, enfin tout, hein, parce que même le portrait, on voit aussi les choses évoluer, on voit le temps de pose se réduire, on voit la photo, parce que le photojournalisme, quoi, qui apparaît quand tout d'un coup il peut photographier. Je crois que c'est la gare de. Alors il photographie. C'est Alexandre III, je crois, le tsar de Russie qui passe et qui. Enfin, c'est assez fou. C'est assez fou de pouvoir comme ça raconter l'histoire du médium à travers les photos des nanas. Mais pour moi, Félix reste. Pour moi, Félix, c'est vraiment le génie.
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des portraits d'écrivains, mais c'est vous parliez de Victor Hugo. Moi, j'ai été assez surprise. Alors même que c'est des photos mortes. Moi, dans mon inconscient, c'est les photos de quatrième de couverture des poches ou dans les livres d'histoire, Baudelaire, on les a vues mille fois. Et c'est vrai que là, je trouve que l'exposition permet de les voir vraiment autrement. Florian Guettet, dernier mot.
Oui, peut-être, mais il y a toute une galerie. Hein. On parle de Baudelaire, Daumier, Nerval, Victor Hugo, enfin vraiment. Et il y a beaucoup de femmes, en fait. Au début, j'ai peiné à les trouver, mais finalement, il y a Joséphine Baker, les Georges Sand.
Il y en a beaucoup, il n'y en a pas non plus énormément.
Il y en a vraiment plus que ce que je pensais.
Les gens réhabilitent les Madame Nadar qui ont travaillé, Ernestine et Marthe.
Exactement, Ernestine et Marthe, notamment Ernestine, qu'on voit sur le palier de la maison Sénard.
Moi, j'en avais jamais entendu parler.
Et on sent que c'est elle qui tient les rênes, quoi. Donc là aussi.
Ah, ça rigole pas avec Ernestine.
Donc on a vraiment tout cette dynastie finalement Nadar qui est exposée là entre quelque chose de très intime et en même temps quelque chose de un vrai portrait d'une époque.
Alors question à 1000 euros, qu'est-ce que ça vous a donné à penser rétrospectivement sur l'exposition JR? Allez Yasmine aussi. Parce que c'est quand même du portrait, alors est-ce qu'il y a une filiation? Vous avez une minute.
C'est la question.
Allez, moi, Florian, il a buzzé là, le champignon.
Non, mais il y a peut-être un rapport à faire entre les chroniques de Montfermeil et le Panthéon Nadar. Le Panthéon Nadar, c'est 250 écrivains, donc c'est sûr que c'est pas la même chose que JR. Mais c'est aussi comment montrer comme ça, dans une seule image, une seule fresque, comme ça, en fait, de raconter dans une fresque. Et c'est finalement aussi le début, je sais pas, mais en tout cas, de la narrativité aussi là-dedans. Comment, en fait, finalement, une image fixe, elle est aussi mobile que ça et qu'elle peut raconter toute l'histoire d'une génération, d'une population.
Sur ce, les Nadar, une légende photographique, il faut citer les commissaires aussi, Sylvie Omna et Anne Lacoste. Ça se passe à la Bibliothèque Nationale de France. C'est jusqu'au 3 février. Le catalogue a le même nom et il est édité aussi par la BNF. Il est temps de conclure cette émission, mais tout de suite, c'est le jeu de la dispute avec Sophie-Catherine Gallet qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier et nous donner la réponse.
Alors, la question était, quel est le nom de la galerie située au cœur du Hyde Park à Londres où Paula Rego a exposé en 1988?
Et la réponse
était la Serpentine Gallery.
A gagné ce soir des invitations pour Never Ending Man Hayao Miyazaki, un documentaire de Kaku Arakawa qui est sorti aujourd'hui au cinéma. Quelle est la question, Sophie?
La question est, quel est le nom du premier long métrage d'Hayao Miyazaki?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi nous réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature. Je serai en compagnie de Raphaël Léris, Jean-Christophe Brianchon et Philippe Chevillet avec au programme L'explosion de la tortue d'Éric Chevillard, Les tribulations d'Arthur Miller d'Andrew Schoengreer, prix Pulitzer 2018, L'Amérique derrière moi, Tervan Desplanques, et puis le coup de cœur ira aux Enténébrés de Sarah Chiche.